milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous posons nos peignes et nos paires de ciseaux dans les salons de coiffure pour parler du très lucratif marché du cheveu afro. On estime que les femmes noires ou métisses dépenseraient entre 4 et 8 fois plus que les autres pour leur coiffure. Un chiffre qui n'étonne pas quand on voit le revenu colossal que génère la production de perruques et de tissages pour l'Inde et la Chine qui se partagent le marché. Nous ferons d'ailleurs escale à Pékin où notre correspondant sur place, Stéphane Lagarde, nous dira tout sur le cheveu transformé. Nous parlerons aussi évidemment du grand retour du cheveu afro au naturel et de son impact sur l'industrie capillaire. Mais avant, installez-vous confortablement dans le fauteuil et penchez la tête en arrière. Chimène Sosa, la meilleure coiffeuse de Cotonou, va s'occuper de vous d'ici quelques instants. Et pour patienter, quoi de mieux que le dernier numéro du magazine Brune, dont nous avons l'honneur de recevoir la rédactrice en chef, Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Pour nous appeler les voisins et les voisines, pour poser vos questions capillaires ou pour nous raconter le rapport que vous entretenez avec vos cheveux, ça se passe sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Appelez-nous dès maintenant.
RFI.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, j'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
Chimène Sosa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du centre de coiffure et de beauté Lorénor à Cotonou, au Bénin. Alors dites-nous, vous qui travaillez dans le domaine, qu'est-ce que ça représente pour une femme au Bénin en moyenne, hein, en termes de budget et en termes de temps, ce soin du cheveu, le budget coiffure moyen?
Alors, le budget coiffure moyen d'une femme au Bénin varie entre 150 1000 francs CFA par mois pour ses soins, en raison de 30 000 francs CFA par semaine sur les soins qu'elle peut venir faire dans son salon tous les samedis. La plupart du temps, c'est à ce rythme que la femme africaine fréquente les salons parce que celle qui s'occupe de son look va souvent chez le coiffeur, surtout en ce moment que la perruque est devenue incontestable dans leur comportement et les cheveux nappés qui sont venus sur le marché les obligent à venir un peu plus souvent dans les salons.
Alors on va parler de la perruque effectivement un peu plus tard dans l'émission. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune. Est-ce que ces habitudes de coiffure que viennent de décrire Chimène Sosa, elles sont similaires ou différentes pour les femmes de la diaspora qui vivent ici en métropole?
Alors, elles sont un petit peu différentes. C'est une histoire de pouvoir d'achat. C'est aussi une histoire de, si vous voulez, de distance, dans la mesure où les villes en Afrique, dans toutes les villes africaines, vous avez des salons de coiffure partout. Et quand une femme a besoin de se faire une petite retouche ou quand elle a besoin d'aller chez le coiffeur, soit elle a son coiffeur attitré, soit elle peut aller dans un petit salon de quartier. Alors qu'à Paris, il faut se déplacer, il faut prendre le métro, il faut attendre. Donc, on a moins ce plaisir d'aller finalement chez le coiffeur en France que si on était en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Sénégal. Mais le budget consacré par les femmes, en général afro-descendantes, est tout de même colossal.
Alors on va prendre un auditeur qui est en ligne avec nous. Il s'appelle Denis de Kara. Il nous appelle du nord du Togo. Bonjour Denis.
Bonjour Amélie à tous les voisins et voisines.
Denis, dites-nous, comment est-ce que vous vous coiffez, vous?
Moi, j'ai les cheveux afro et une fois par semaine, je m'en vais chez le coiffeur pour me faire la forme et puis j'utilise la teinture pour rendre mes cheveux bien noirs. Et je les peigne à tout moment et ils sont toujours propres.
Ça fait longtemps que vous avez adopté cette coiffure-là et qu'est-ce que disent vos proches de cette coiffure? Je crois que vous avez eu quelques, peut-être, critiques de la part de votre entourage.
Oui, ça fait très longtemps que j'ai adopté cette coiffure. Ça fait déjà, disons, 4 ans que j'ai adopté cette coiffure. Mais dans mon entourage, on trouve qu'avoir les cheveux beaucoup sur la tête, c'est une histoire de femme, que c'est les femmes qui doivent avoir les cheveux beaucoup sur la tête. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Certains m'ont approché, ils m'ont dit de me coiffer, mais je n'ai pas accepté de le faire parce que j'adore les cheveux afro.
Donc les hommes doivent avoir les cheveux courts, selon votre entourage, c'est ça?
Oh. Oui, c'est ce qu'ils me disent tout le temps.
Au niveau de l'entretien, combien est-ce que ça vous coûte, Denis? Ça vous coûte cher?
Ça me coûte à peu près 1000 francs CFA tous les 2 semaines.
Et alors, vous faites ça en salon ou vous pouvez faire ça vous-même en achetant vos propres produits?
Non, c'est mon coiffeur qui me le fait. C'est en salon et je le fais.
Chimène,
c'est mon coiffeur...
Oui, continuez, Denis.
C'est mon coiffeur... Ok, c'est mon coiffeur qui me propose la teinture qu'il faut utiliser. Et c'est ça que j'utilise.
Chimène Sosa, dans votre centre de coiffure et de beauté, est-ce que vous recevez aussi des hommes dans le, comme c'est le cas de Denis? Est-ce qu'ils sont nombreux?
Oui, oui, tout à fait. C'est, je pense que même dans le milieu afro, aujourd'hui, les hommes sont devenus des potentiels clients des salons de coiffure parce que la mode fait que souvent, c'est des hommes qui se soignent. Et quand ils se soignent, ils sont souvent dans les salons pour se couper les cheveux, faire leur couleur. Parce que la plupart de ces hommes pensent qu'en colorant leurs cheveux, ça les rajeunit. Donc, ils sont souvent là pour rafraîchir leur couleur et puis rafraîchir leur coupe. Et maintenant, le nouveau service, c'est les services des barbiers. La barbe que les Africains ont laissé pousser, c'est une mode. Donc, ils viennent l'entretenir, ils entretiennent leurs mains, ils entretiennent leurs pédicures. Ces hommes sont devenus des grands clients des salons de coiffure. Et étant donné que moi, j'ai un salon... un peu luxe, on va dire. Le budget n'est pas de 1000 francs, il est peut-être de 10 000 francs pour faire ça toutes les semaines.
Denis,
voilà. Ça dépend, comme il y a des salons partout, ça dépend des budgets des gens. Mais c'est vraiment des bons clients.
Denis, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous entretenez aussi votre barbe, comme le disait Chimène Sosa?
Bon, moi, je n'adore pas la barbe. Je me rase tout le temps, la barbe. Je n'aime pas les moustaches. Donc, je les rase à tout moment.
Ça. Et au niveau de votre entourage masculin, est-ce que vous avez remarqué que parmi vos amis, de plus en plus d'hommes se rendent chez le coiffeur?
Oui, de plus en plus, les gens se rendent chez le coiffeur. Mais c'est pour se raser complètement la tête, parce que je trouve que ce n'est pas bon d'avoir les cheveux sur la tête, c'est beaucoup en tant qu'homme.
Ah, donc vous êtes quand même, le dernier fervent supporter du cheveu afro.
Oui.
Et volumineux sur votre tête. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Denis. On a une autre auditrice en ligne, c'est Bintou. Elle nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Bintou.
Bonjour les voisins et les voisines.
Alors racontez-nous Bintou votre routine capillaire. Comment est-ce que vous vous coiffez vous?
Bah moi d'habitude je laisse comme ça mes cheveux au naturel. Mais quand je sors, ou bien les cérémonies, je mets des perruques.
Vous achetez des perruques, d'accord. Combien est-ce que vous achetez de perruques? Combien est-ce que vous en avez? Et combien est-ce que ça vous coûte?
Bon, à peu près, j'ai 5 perruques. Il y en a qui coûtent 120 000. L'autre, c'est 100 000, 75 000, ça dépend.
Et à quelle fréquence est-ce que vous changez?
Non, ça dépend des cérémonies ou bien de l'occasion. Des fois, tu mets une longue perruque ou bien les perruques frisées et tout ça.
Est-ce que vous avez des préférences au niveau de la composition de la perruque? Est-ce que vous préférez la fibre synthétique ou est-ce que vous n'achetez exclusivement que des perruques en cheveux humains?
Oui, oui, j'achète des perruques en cheveux, oui. Parce que la fibre synthétique, non, je n'utilise pas.
Pour une question de qualité?
Oui, de qualité, oui. Pour une question de qualité. Et puis, à durée, les perruques à cheveux naturels, ça dure beaucoup plus longtemps.
Restez en ligne avec nous, Bintou. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, la perruque, on l'a entendu, c'est pour qui exactement? Est-ce que c'est pour les femmes pressées? Est-ce que c'est pour les femmes qui n'ont pas le temps? C'est pour les femmes qui aiment changer de tête?
Alors, ça dépend du marché. Est-ce que vous savez que, qu'en Europe, qui est un marché important pour la perruque, pourquoi? Parce que 90% des perruques qui sont vendues en Europe sont vendues à des gens qui ont le cancer. Et 10% des perruques qui sont vendues sont pour un caractère festif ou accessoire. Donc la perruque a une très très grosse progression parce que le nombre de cancers, malheureusement, augmente dans le monde. Ça, c'est une réalité. Donc... il y a ce côté donc médical qui est très très important donc dans les pays occidentaux, mais sur l'Afrique c'est complètement différent. La perruque est devenue finalement une espèce de double de soi, c'est-à-dire que on met une perruque, comme le disait Bintou, elle peut porter du long, elle peut porter du court, elle peut porter du frisé, c'est-à-dire qu'elle veut changer de look en fonction de son humeur, de l'occasion. Et finalement, le problème qui se passe, c'est que les femmes ne traitent plus leurs cheveux, ne soignent plus leurs cheveux et se contentent de mettre une perruque sur leur tête quand elles veulent sortir, quand elles veulent être belles, parce que pour elles, être belle, c'est aussi avoir un cheveu caucasien. Donc ça, c'est un véritable problème. Mais sinon, la perruque, c'est devenu finalement presque un geste, un automatisme. Hein, de même qu'on se met du mascara ou qu'on se brosse les dents, ben, on va mettre sa perruque pour aller travailler parce qu'on ne sait plus toucher à ses cheveux naturels, on ne sait plus se tresser. Donc ça, c'est une réalité, effectivement, sur le marché africain.
Mais ces perruques, elles nécessitent aussi un entretien particulier, je suppose, surtout s'il s'agit de cheveux, de vrais cheveux humains ?
Oui, bien sûr, ça se lave. Il faut voir que sous nos climats tropicaux, avec la transpiration, avec, si vous voulez, la pollution qu'il y a, donc le problème qu'on met quand on a une perruque, c'est en fait d'accroître sur le cuir chevelu une couche, finalement, de matière qui n'est pas très, très agréable. C'est aussi empêcher le cheveu de respirer et de pousser convenablement. Donc, la perruque doit se laver, elle doit se laver une fois par semaine, mais quand on est pressé, on oublie de le faire et on pense que la perruque est un objet finalement qu'on peut utiliser comme ça, au gré de ses envies, et que comme c'est un objet mort, entre guillemets, il n'a pas besoin de soins particuliers. Or, une perruque pour durer a besoin d'être lavée, d'avoir des soins, pas les mêmes soins que le cheveu naturel, mais ça doit s'entretenir parce que c'est un coût. Quand Bintou disait qu'elle payait 120 000, ça fait à peu près 160 euros la perruque. Donc, vous multipliez par 5, ça fait un budget de près de 800 euros. Donc, uniquement pour mettre, fixer quelque chose sur sa tête que le soir, on enlève.
Bintou, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis là.
Au niveau de l'entretien, comment ça se passe justement ? L'entretien de vos perruques ?
Oui, moi, je les lave avec de l'eau chaude et du démêlant.
Et au niveau de la texture du cheveu humain, donc la texture donc de ces perruques que vous achetez, est-ce que vous avez des préférences au niveau de la provenance ? Est-ce qu'il y a des cheveux humains mieux que d'autres ?
Oui, c'est carrément mieux parce que il y a la qualité aussi. Ça dure un peu plus que les autres cheveux, par exemple synthétiques.
Merci Bintou, j'ai pas suivi la fin de votre phrase. En tout cas, je crois que la ligne est un petit peu mauvaise. Merci en tout cas pour votre témoignage. Moi, au niveau de la provenance de ces mèches et de ces perruques, j'ai quelques chiffres sous les yeux. Alors, on sait que l'un des principaux fournisseurs, c'est un marché qui représente 10 milliards de dollars. Ça fait à peu près 8,80 milliards d'euros. Les cheveux sont achetés majoritairement à des temples dans lesquels les fidèles hindous viennent se faire raser le crâne en symbole de purification. Et selon un article de Jeune Afrique que j'ai lu sur le sujet, qui date d'il y a 5 ans, donc les chiffres sont plus très actualisés, mais assez évocateurs tout de même, entre 2011 et 2016, le temple Tirupati dans le sud-est a récolté 97 millions de dollars grâce aux ventes de cheveux. Le kilo de cheveux, ça vaut entre 200 et 400 euros. C'est assez colossal, je trouve. L'autre gros poisson du marché, c'est bien sûr la Chine. Et nous allons justement prendre la direction de Pékin, où l'on retrouve notre correspondant permanent en Chine, Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Amélie.
Alors la Chine reste également, au même titre que l'Inde, le principal fournisseur avec 80% des exportations de cheveux dans le monde. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Il suffit de faire un tour sur Taobao, la plateforme de commerce d'Alibaba, pour se rendre compte de l'importance du secteur. Amélie, les faux cheveux ou les vrais faux cheveux, hein, je ne sais pas comment on dit, moi, sont le produit chinois le plus vendu à l'étranger, hein, sur ces plateformes, chez le géant chinois en tout cas, du commerce en ligne, avec la téléphonie, les accessoires de voiture et les produits de beauté. Donc c'est un vrai business via notamment la plateforme AliExpress, tout nos auditeurs connaissent. Et on le voit dans les statistiques, la demande se trouve clairement en Afrique. C'est un gros, gros marché pour la Chine. L'Afrique, avec les États-Unis, bien sûr, hein. Les publicités sont à destination d'ailleurs des consommateurs africains. Hein. Sur ces plateformes, on voit bien que c'est à destination des consommateurs africains. Alors où les fabricants, ces faux cheveux, les commerçants et les commerçantes qui nous écoutent connaissent bien les villes chinoises, et pas que Pékin, Canton et Shanghai, mais aussi où au sud-est du pays, le plus grand marché de détail au monde. Et puis, Xuchang, Amélie, c'est très important, c'est la capitale chinoise de la perruque. Xuchang, ça se trouve dans le centre de la Chine, dans la province du Henan. C'est une vraie caverne d'Alibaba pour celles et ceux qui s'intéressent au marché de ces faux cheveux. La spécialité de la ville remonte à la dynastie des Qing, donc au 19e siècle. Et aujourd'hui, on a plus de 5000 usines et ateliers de faux cheveux à Xuchang, 300 000 personnes pour cette industrie, donc selon les statistiques de la ville. En faisant des recherches, on est tombé sur des chiffres. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, hein, mais le Bénin, c'est le plus gros acheteur de postiches chinoises. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont apporté pour 930 000 euros de faux cheveux en 2018, 1,150 milliard d'euros pour l'ensemble de l'Afrique. Donc, c'est 37% quand même des exportations chinoises de faux cheveux, l'Afrique, et puis derrière, devant, il y a les États-Unis. Voilà pourquoi quelqu'un comme Georges Weah, hein, pour l'anecdote, qui a fait un détour par Xuchang, ça a surpris peut-être les homologues chinois, quand il est venu ici au Forum Chine-Afrique en 2018, il a demandé à passer par cette ville du Henan, cette capitale du cheveu, Georges Weah.
Alors on assiste aussi, je crois, à une envolée des prix. Est-ce que ce serait lié à la crise sanitaire ?
Oui, alors comme beaucoup de secteurs en Chine, effectivement, cette industrie a subi en tout cas les contre-coups de la Covid, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que jusqu'au printemps 2020, les usines sont restées fermées. Ensuite, parce que la demande a reculé, notamment avec la guerre commerciale sino-américaine. Hein, les Américains ont un peu réduit la demande. Si je prends l'exemple de Rebecca, ça parlera sûrement à certains de nos auditeurs et de nos auditrices. Rebecca, c'est la plus grande entreprise de faux cheveux à Xuchang. La société a vu son chiffre d'affaires reculer de plus de 40% pendant la crise sanitaire. Mais ça continue d'être difficile d'ailleurs, hein, nous disent les témoins qu'on a joints au téléphone. Les prix des vrais cheveux ont augmenté de plus de 20%. Alors forcément, la demande, c'est plus compliqué quand ça coûte plus cher. Écoutez ce témoignage de M. Meng que nous avons joint à Xuchang, donc cette ville, cette capitale du cheveu dans le centre de la Chine. C'est un employé de l'entreprise Longsheng Yuan qui travaille essentiellement à l'export. Monsieur Meng.
Notre entreprise est affectée. Les prix ont augmenté en raison du coût de la main-d'œuvre. C'est 8 à 9 fois plus cher qu'avant. Avant, nous avions des travailleurs en Corée du Nord qui venaient ici. Ils cousaient les cheveux à la main dans une coiffe en dentelle. Mais avec le Covid, la Corée du Nord a fermé sa frontière et les Nord-Coréens ne viennent plus. Nous employons maintenant des travailleurs chinois pour faire ce travail, et le salaire est beaucoup plus élevé. En fait, on fait tout manuellement. On n'utilise pas de machine pour la couture. Et pour les traitements, on emploie uniquement des matériaux originaux, notamment des cheveux importés d'autres pays. La pandémie a eu un impact. La conséquence est que nous payons plus cher la matière première.
Voilà, Amélie, juste en quelques mots, hein, les prix de ces cheveux vendus par cette société de l'employé M. Meng là, a augmenté d'environ 30% avec un chiffre d'affaires quand même en recul de 30 à 40%. Hein. C'est lui qui nous dit, en raison donc du coût de la main-d'œuvre maintenant et du prix de la matière première, on parle bien de cheveux naturels, parfois importés de l'étranger, mais aussi venus de Chine et traités donc en Chine, donc ils sont chers ces cheveux. À Xuchang, on parle même d'or noir, hein, ça n'a évidemment rien à voir avec le pétrole. Un kilogramme de cheveux, c'est donc, vous l'avez dit, hein, plus de 200, 300 euros, même parfois plus.
Merci beaucoup Stéphane pour vos précisions. Vous étiez en direct de Pékin pour 7 milliards de voisins et on salue évidemment tous nos auditeurs qui nous écoutaient depuis la Chine. Merci encore Stéphane. On continue notre discussion dans quelques instants. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez nous parler de vos cheveux au naturel ou de vos perruques et tissages. Le numéro, c'est le 33 7 64 45 51 41. On prendra vos appels après cette déclaration d'amour à la couleur ébène signée Drix.
Dis-moi ce qu'on t'a dit à propos de Paris. J'ai l'impression qu'ils t'ont menti. C'est pas le paradis. Comment te dire qu'on en vit? Ton style de vie, revendiquer mes racines sans qu'on me l'interdise. Ah, sois pas vexé, ton identité. T'es intelligent, tu peux le constater. En vrai, si tu savais toutes les qualités des femmes comme toi, y'en a pas assez. Sois pas vexé, ton identité. T'es intelligente, peux le constater. En vrai, si tu savais toutes tes qualités, des femmes comme toi, y'en a pas assez.
Jolie couleur et belle, ta beauté m'apaise. Veuillez retirer ces chaînes. J'ai compris.
chez toi. Baby, oh, oh, oh. Je t'en prie, sèche tes larmes. Baby, oh, oh, oh. Repose-toi dans mes bras. Baby, oh, baby, oh. Sois pas vexé, ton identité. T'es intelligent, tu peux le constater. En vrai, si tu savais toutes les qualités des femmes comme toi, y'en a pas assez. Sois pas vexé, ton identité. T'es intelligent, tu peux le constater. En vrai, si tu savais toutes les qualités des femmes comme toi, y'en a pas assez. Jolie couleur et belle, ta beauté m'apaise.
Écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée au marché du cheveu afro. Avec en studio avec nous Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune. Et en ligne avec nous, en direct de Cotonou au Bénin, Chimène Sossa, directrice du centre de coiffure et de beauté Lorénor. Je rappelle le numéro pour nous appeler les voisins et les voisines pour parler cheveux avec nos invités, le 33 7 64 45 51 41. Et on va tout de suite au Burkina Faso avec une auditrice, Martine. Bonjour Martine.
Bonjour Amélie.
Alors Martine, racontez-nous, comment est-ce que vous vivez vos cheveux?
Moi, je préfère garder mes cheveux au naturel. Ça veut dire que je n'utilise pas de défrisant. Je lave juste avec un shampoing et j'utilise la pommade faite à base de beurre de karité pour l'entretien de mes cheveux. Cela permet à mes cheveux d'être mous, souples. Je n'ai pas des cheveux trop crépus.
Ça a toujours été comme ça ou vous êtes passé par ce cheveu naturel sans défrisant sur le tard?
Bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Je peux dire que j'ai défrisé mes cheveux juste une ou deux fois quand j'étais enfant. Mais après, je n'ai plus utilisé de défrisant.
Chimène Sossa, vous avez entendu le témoignage de Martine qui disait qu'elle n'utilisait plus de défrisant, mais que petite, ça se faisait. À quel âge est-ce qu'on commence à aller chez le coiffeur pour faire ce genre de... à quel âge est-ce qu'on commence à utiliser en fait des produits défrisants au Bénin, en moyenne?
Pas forcément au Bénin. La femme africaine en général... j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir le sujet
Bien sûr.
Allant dans l'historique de nos cheveux. Mais la question qui est venue sur le tableau est que à quel moment on commence à défriser un cheveu. Mm-hmm. Généralement, nos mamans ont tellement de problèmes avec ce cheveu crépus qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Et la petite fille africaine a souvent beaucoup de mal. C'est un moment, le moment du shampoing pour une petite africaine. Est un moment de torture parce que ce cheveu étant crépus et très difficile à coiffer, les mamans souffrant tellement de voir leur petite fille en train de pleurer parce qu'on a besoin de les traiter. Et avant, on se tressait toutes avec du fil pour pouvoir détendre ce cheveu. Ne serait-ce que ce moment qu'on prend sur un enfant pour lui faire cette pratique, l'enfant souffrait tellement que les mamans se sentaient obligées de venir voir les salons de coiffure pour leur demander comment coiffer leurs enfants. Et la solution qu'on avait à un moment donné, c'était de les défriser soit à chaud, soit à froid. Et le défrisage à froid étant un produit toxique pour le cheveu, pendant des années, les mamans, à partir de 6 ans, la plupart du temps, 6-7 ans, pensant que leurs enfants étaient jolis, et c'était souvent la période des communions pour les communautés chrétiennes, leurs enfants avaient besoin d'être jolis dans cette période-là, entre 7 et 10 ans, c'était les communions. Et la première application du défrisage venait dans cette période-là, où l'enfant, dans sa tête, était plus joli, coiffé d'une manière européenne.
Avec le cheveu lisse.
Voilà, dans sa cérémonie, ses cheveux lisses étaient plus faciles à coiffer pour la coiffeuse, donc la défrisait. Et je pense que la plupart des enfants ont été défrisés entre 7 et 10 ans, la plupart du temps, en tout cas, dans ma communauté, en Afrique.
On va revenir là-dessus, effectivement, c'est important. Mais juste avant, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, je vous vois sourire à l'évocation de ce témoignage par Chimène Sossa. Ça fait mal, c'est du vécu?
Oui, c'est du vécu. En fait, moi, j'avais un cuir chevelu particulièrement sensible. Et pour ma mère, effectivement, c'était un combat de me coiffer. Mais ce que je veux dire, en fait, nous sommes passés d'habitudes traditionnelles de tresse qu'on faisait aux petites filles à une occidentalisation de notre vue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants étaient scolarisés, il fallait qu'ils soient un peu plus conformes au modèle dominant, c'est-à-dire le modèle occidental. Donc, moi, j'ai vu des petites filles de 2 ans défrisées quand elles allaient soit en maternelle, soit à la crèche, donc à Abidjan ou à Dakar. Et ça, parce que les femmes ont perdu l'habitude de traiter ce cheveu. Ce n'est pas un cheveu difficile. Chaque cheveu a sa particularité, mais simplement, il faut arrêter de considérer qu'un cheveu crépus est difficile parce qu'il n'est pas lisse. Un cheveu crépus est un cheveu crépus et il doit se traiter d'une certaine façon. Mais parler de difficulté, je crois, c'est déjà mettre une espèce de hiérarchie dans le cheveu. Il y a les cheveux fins qui sont effectivement plus lisses et puis les cheveux crépus qui sont difficiles. Non, déjà on se met une hiérarchie. Donc je crois que ça, il faut déjà revenir sur en disant que les cheveux sont différents, ils se traitent différemment avec des peignes différents, avec des produits différents. Mais c'est vrai que à partir du moment où on a scolarisé les enfants, il fallait un modèle. Il fallait un modèle qui était un modèle unique occidental. Et puis les défrisages, et c'était une catastrophe parce que parfois les petites filles à 10 ans avaient déjà des chutes de cheveux abominables et ont perdu une grosse partie de ce qu'on appelle leur capital capillaire à ce moment-là.
Alors justement, on va écouter une chronique qui a été diffusée sur RFI il y a quelques mois. C'est une interview de la créatrice coiffure Nadine Matéki au micro de notre journaliste Maria Afonso.
Nadine Matéki aime coiffer, un don que lui a transmis sa grand-mère. Cette artiste d'origine congolaise voit la coiffure comme un art. Nadine Matéki participe à des défilés, montre le potentiel du cheveu et sublime la reine qui sommeille en chaque femme. La coiffe africaine est d'ailleurs le fil rouge de son processus créatif.
Quand je ne suis pas à la maison, je suis à l'atelier en mode création et j'ai plein de petits dessins partout, des mèches partout, des perles partout, des coris. Et c'est mon petit univers, mon petit monde où je me sens bien, je mets de la musique et puis c'est parti.
Nadine Matéki a un parcours atypique. Elle est née au Congo, est arrivée en France à 4 ans, puis elle est repartie en Afrique de ses 8 ans jusqu'à ses 13 ans. C'est pendant cette période-là que sa grand-mère lui apprend à coiffer. De retour à Paris, elle travaille comme comptable, mais elle n'aime pas les calculs. Elle décide alors de se consacrer à la coiffure. Et aujourd'hui, Nadine Matéki est connue pour ses créations capillaires dignes des reines africaines.
Quand je fais des sculptures capillaires, je retrace l'histoire de certaines reines d'Afrique, je retrace l'histoire de nos ancêtres, de nos arrière-grand-mères qui portaient leurs cheveux naturels et qui portaient des belles coiffes, des parures. Mes sculptures sont inspirées de toutes ces coiffes ancestrales que portaient toutes ces femmes. On peut faire de la sculpture avec juste ses cheveux. Mais on a toujours besoin d'une matière à côté. Moi, par exemple, j'utilise du raffia. Il m'arrive aussi parfois d'utiliser du fil d'aluminium pour venir poser certaines mèches dessus pour faire monter. Et j'ai du tulle aussi. Il y a pas mal de matières que j'utilise. Et pour faire ces sculptures, je me fournis de cheveux synthétiques parce que ça, c'est une matière qu'on peut vraiment manier dans tous les sens et ça coûte pas trop cher. Parce que sinon, on est ruiné après.
Nadine Matéki s'est donné comme mission celle de réconcilier la femme avec la nature de ses cheveux.
Moi, je veux enlever en fait cette image qu'on nous a toujours mis en tête que la femme noire, elle est bonne à rien, qu'elle a les cheveux dégueulasses, les cheveux crépus, comme on dit. Alors que pour moi, c'est un terme qui est dévalorisant. C'est une manière pour moi de mettre en valeur aussi toutes les femmes, et surtout la femme africaine, étant donné que moi-même je suis une femme africaine, et leur dire que vous êtes belle avec votre peau ébène, vous êtes belle avec vos cheveux naturels afro, vous êtes belle comme vous êtes, donc acceptez-vous. Aujourd'hui, on a des gens comme un monsieur qu'on appelle Tibetum, qu'on a baptisé cheveutologue. On travaille souvent ensemble, et lui, il est là pour leur transmettre ce savoir-faire, parce que c'est un homme, mais qui parle du cheveu comme si c'était une femme. C'est très étonnant, mais il en parle tellement bien que on boit ses paroles. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je vais continuer à le faire.
Retrouvez Nadine Matéki sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast.
Nadine Matéki au micro de Maria Afonso, c'est une chronique RFI. Chimène Sosa, on l'a entendu justement dans la bouche de cette coiffeuse, le mot crépu, il ne lui convient pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En fait, c'est pas qu'il ne me convient pas. Le mot crépu, c'est la nature de notre cheveu qui est crépu. C'est pas péjoratif de dire des cheveux crépus. Aujourd'hui, c'est même pas raciste de dire ça, parce que à un moment donné, on a été obligé d'accepter ce cheveu qui a une histoire. Parce que au moment de l'esclavage, par exemple, dans le sud des États-Unis. Des Africaines, nos ancêtres qui étaient des esclaves, étaient obligés de cacher ce cheveu que le colon n'acceptait pas, parce que dans son esprit, c'est dégradant de se promener avec un cheveu crépu, dont le nom cheveu crépu est devenu une honte. Et aujourd'hui, avec la civilisation, Angela Davis et Malcolm X nous ont fait comprendre que c'était un complexe, il fallait arrêter cette domination de l'inconscient, en disant qu'il fallait arrêter de défriser ce cheveu, qu'on a toujours banalisé en se disant que c'était dégradant pour une Africaine de porter son cheveu dans sa nature qui est crépu. On ne peut pas l'appeler autrement, c'est un cheveu crépu.
Donc le problème, ce n'est pas le mot, mais c'est le concept qu'on y a attaché, l'idée qui était derrière ce mot à un moment donné, si j'ai bien compris. Marie-Jeanne Servin-Thomas, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous choque, ce mot, crépu ? Vous comprenez qu'on puisse être dérangé par...
Alors, en fait, si vous voulez, le mot crépu est un mot qui scientifiquement n'existe pas. On peut dire qu'un cheveu est frisé et il y a un degré de frisure qui est plus ou moins dense. Vous voyez, entre une femme, par exemple, du Maghreb, qui aura un cheveu bouclé, ou une autre qui aura un cheveu frisé. Donc, je crois que le mot frisé est beaucoup plus approprié. On peut dire une frisure dense est beaucoup plus approprié. Parce que crépu, en technique de coiffure, crêper un cheveu, ça veut dire, en fait, lui donner du volume artificiellement en le poussant, si vous voulez, avec un peigne. On peut crêper vos cheveux, par exemple, en poussant, si vous voulez, en faisant remonter le cheveu vers la racine. Donc, c'est une technique qui est très, très particulière. Et donc, quand on cherche, par exemple, le mot crépu, ce qui est lié, si vous voulez, un peu à une frisure, ce n'est pas un mot qui est approprié. On se l'est approprié comme ça, mais ce n'est pas un mot approprié pour expliquer le cheveu à, si vous voulez, des populations afro-antillaises. Donc, il faudrait plutôt dire un cheveu frisé avec une frisure dense qu'un mot crépé, parce que le terme crépé n'existe pas en termes, si vous voulez, de concept donc de capillaire. Mmh. Voilà. Donc, ça ne me choque pas, puisque bon, on l'emploie, mais il n'est pas propre, si vous voulez, à la nature même du cheveu afro ou du cheveu négroïde.
Alors, nous sommes en ligne avec Georges du Canada. Bonjour, Georges.
Oui, bonjour. C'est Amélie.
Oui, bonjour, Georges. Alors, racontez-nous, comment est-ce que ça se passe sur votre tête, au niveau de vos cheveux ? Comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce qu'au Canada, c'est différent ?
Oui, au Canada, en fait, c'est vraiment différent. Donc, moi, quand j'étais au Cameroun, bon, garder les cheveux, ça avait une connotation assez péjorative. Donc, autour de l'entourage de soi, par exemple, au travail, auprès de la famille. Donc, mais ici, au Canada, c'est juste, on se coiffe parce que des fois, on a envie donc, de se faire beau, quelles que soient les circonstances. Donc, que ce soit dans un cadre professionnel ou hors professionnel. Donc, c'est un peu ça.
Et ce n'était pas pareil quand vous étiez... au Cameroun?
Non, c'est pas pareil. L'interprétation est complètement différente en Occident. Vous savez, ici, on garde les cheveux. Parfois, on a une énorme touffe là, parfois sur la tête. C'est juste parfois pour parer aux arbres hivers. Et puis, mettre, bien sûr, on met aussi les tuques, donc pour se protéger du froid. Et ça aide aussi.
Merci Georges pour votre témoignage. Marie-Jeanne Servin-Thomas, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on est plus libre d'arborer la coiffure qu'on veut ?
Aux États-Unis, certainement. Puisque avec, si vous voulez, le monde de la musique est un très grand influenceur en matière de mode de maquillage, de mode vestimentaire, mais aussi de mode capillaire. Et aujourd'hui, quand vous avez une chanteuse un petit peu connue qui met ses cheveux, qui met une perruque, par exemple, rouge ou rose, vous êtes sûr que dans la semaine, vous allez avoir des perruques roses ou rouges qui arrivent sur le marché avec des jeunes afro-descendantes qui vont les utiliser. demain, vous pouvez avoir des extensions très très longues ou très courtes. Et c'est le phénomène des réseaux sociaux amplifie, si vous voulez, ces modes. Hein. Donc, il n'y a pas véritablement de tabou en matière de création capillaire aux États-Unis. Vous pouvez vous balader dans les rues de New York, avoir des filles avec des cheveux naturels, d'autres avec des extensions pas possibles, d'autres avec des couleurs incroyables. Et c'est comme ça. Donc, que vous alliez dans une administration ou quel que soit l'endroit, les femmes ont cette capacité à montrer leur, si vous voulez, leur appétence pour un certain changement au niveau de leurs cheveux. En Afrique, ça commence à venir, mais chez les jeunes filles assez jeunes quand même. Chez les jeunes filles qui sont dans le milieu de la mode ou dans le milieu de la musique. Mais le gros de la population des femmes sont quand même assez strictes, assez, non pas conservatives, mais classiques dans leur choix de couleurs, de formes, parce qu'elles sont aussi parfois en face à un public qui est moins tolérant.
Alors, on a reçu un message d'une de nos auditrices, justement, sur le cheveu naturel. Écoutons-la.
Bonjour 7 milliards, je m'appelle Stéphanie, je vis à Lomé et j'ai choisi de revenir aux cheveux naturels en 2015. Ça n'a pas été une expérience facile, mais une fois qu'on commence à connaître son cheveu, vraiment je le recommande à tout le monde parce qu'en fait c'est une redécouverte et surtout notre cheveu est très versatile, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ce que je voulais par contre commenter, c'est le fait qu'on a constaté avec mes amis que sur le continent africain, finalement, c'est assez difficile de trouver des coiffeuses qui maîtrisent le cheveu naturel africain. Et c'est un paradoxe qui est assez intéressant. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'en pensent vos intervenantes à ce sujet. Merci, bonne journée.
Alors, Chimène Sosa, on a entendu Stéphanie de Lomé qui nous parlait justement de la difficulté de trouver des salons de coiffure qui ont ce savoir-faire. Alors, je vais faire un petit point sur ce que j'ai au niveau des chiffres en France d'abord. Alors, on apprend par exemple qu'il y a 3 fois plus de salons de coiffure que de boulangeries ici. On recensait en 2018 près de 85 000 salons de coiffure sur le territoire métropolitain, d'après l'Union nationale des entreprises de la coiffure. Ça fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et on considère également, le Conseil représentatif des associations noires considère qu'il y a environ un cinquième de la population qui est noire et métisse et qui a du coup ses besoins capillaires particuliers. Donc il faudrait au moins 17 000 enseignes qui seraient capables de proposer ce service pour ce type de cheveux. Et c'est très loin d'être le cas, rien qu'en Île-de-France, ici où sont installés nos studios de RFI. On a 15 000 salons de coiffure et environ 150, autour de 150 seulement, qui maîtrisent ces techniques et ce savoir-faire, en fait. Comment est-ce que ça se passe au Bénin, enfin en tout cas sur le continent, vous qui êtes coiffeuse?
Excusez-moi, sans vous interrompre, je voulais juste vous dire qu'au niveau de l'apprentissage de la profession de coiffeur, en France, il n'existe pas d'école qui apprennent à travailler sur un cheveu frisé.
Effectivement.
Donc, quand vous faites, par exemple, un défrisage chez un coiffeur, il le fait de façon empirique, c'est-à-dire qu'il a appris une technique comme ça, par hasard, et si ça marche sur un client, il va l'essayer sur d'autres. Mais à ce jour, quand un coiffeur, par exemple, afro-antillais, va faire une formation, on ne lui apprend jamais, à travailler sur un cheveu frisé.
Ou alors, il faut passer par des formations privées, des stages ?
Non, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un diplôme. Hein. C'est un diplôme qui est national, qui est reconnu par l'État. Donc, si vous voulez être un coiffeur diplômé, votre CAP de coiffure, quand vous faites vos études, vous ne travaillez... En fait, les jeunes ne travaillent quasiment jamais sur un cheveu en live, en fait, si vous voulez, sur un cheveu frisé ou crépu. Donc, ça, c'est aussi le gros problème. Ça veut dire qu'on applique des produits comme si tous les cheveux étaient des cheveux caucasiens. Donc ça, et pour ouvrir un salon de coiffure, il faut que ce soit la personne, mais il faut qu'il y ait dans le salon quelqu'un qui ait une certification, un CAP de coiffure pour ouvrir un salon de coiffure. Donc c'est normal aussi parce que la France n'a pas évolué alors que l'Angleterre a évolué récemment. C'est-à-dire que dans tous les salons en Angleterre, à partir, je crois, de 2024, tous les coiffeurs seront habilités à travailler sur un cheveu, quelle que soit sa nature.
Chimène Sosa, comment ça se passe sur le continent? Est-ce que vous qui êtes coiffeuse, vous constatez aussi qu'effectivement c'est difficile de se former à ce savoir-faire-là?
Ah oui, tout à fait, parce que je pense que moi je vais parler à mon temps, ça fait 30 ans que moi j'ai fini l'école, Mais je me rappelle que mon dernier diplôme était mon brevet de maîtrise en coiffure. Pour pouvoir passer ce diplôme, j'ai dû travailler dans un salon afro pour me perfectionner sur le cheveu afro. Mais pendant tout mon circus, j'ai jamais pu apprendre le cheveu afro à l'école. Alors que moi, j'ai fait un brevet de maîtrise, j'ai fait un CAP de coiffure, j'ai fait le brevet professionnel. Et chaque fois qu'on devait aller en formation, moi, étant donné que j'étais noire, j'avais l'occasion d'aller dans les salons afro. Mais la plupart des gens qui voulaient apprendre ce cheveu n'avaient pas d'endroit et n'avaient pas de connaissances autour parce que ça n'existait pas. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a 10 ans, à peu près il y a 10 ans, quelques salons ou bien quelques formateurs ont commencé par former les jeunes filles dans la coiffure afro. Je pense que ça existe, hein, Marie-Jeanne. Mais je sais que
pas au niveau du CAP. Pas au niveau du CAP.
Pas au niveau du CAP. Moi, j'ai eu à faire des formations à Londres. Je suis partie aux États-Unis aussi pour apprendre quelques techniques sur les cheveux afro. Mais c'est vrai qu'en France, je ne sais pas s'il y a 10 ans, ça a commencé, mais je ne pourrais pas répondre à cette question. Je sais qu'en Afrique, c'est vraiment un besoin nécessaire. Des personnes de mon niveau, en tout cas au Bénin et dans la sous-région, on n'en connaît pas beaucoup parce que les gens n'ont pas pris le temps de se former sur ce cheveu. Et voilà qu'ils vivent en Afrique. Donc le problème se pose parce que quand vous rentrez dans les salons, en matière de technologie ou bien technicité, vous avez du mal à retrouver des professionnels du métier. Et c'est vraiment un problème. Ce cheveu qui est méconnu de tout le monde est même méconnu des Africaines, des Africaines que nous sommes, parce que les connaissances ne sont pas développées autour. Voilà la question du jour.
Alors, on a reçu un autre message qui nous est parvenu sur notre messagerie WhatsApp. Il s'agit de celui de Mariama. Elle nous laissait ce message de Taou au Niger. On l'écoute.
J'ai arrêté le défrisage parce que ça a dégradé mes cheveux là. Donc, l'avant de ma tête n'avait presque plus de cheveux. C'était tout cassé. En fait, dès que j'attachais, ça se cassait. Et c'est le défrisage qui m'a fait ça. Donc, maintenant, j'ai arrêté. Je suis en train de récupérer petit à petit.
Alors, Chimène Sosa, on entendait Mariama qui parlait justement de l'utilisation de ces produits. À quoi est-ce qu'elles s'exposent, les femmes et les hommes aussi d'ailleurs, hein, qui utilisent régulièrement des produits défrisants ou colorants? Quels sont les problèmes? Parce que vous devez voir passer des clientes et des clients qui ont un cuir chevelu qui est complètement abîmé par ces produits.
Oui, la plupart du temps, ce qu'on voit beaucoup en ce moment... Bon, c'est vrai que le défrisage a existé un moment. Les Africaines ont commencé par comprendre le désastre qu'il y a autour parce que c'est un produit, le cheveu devient véhicule dans un milieu alcaline et qui s'ouvre au moment où on pratique cette technique et le cheveu se détruit de l'intérieur. Donc beaucoup de gens ont commencé par comprendre que le défrisage est destructeur pour la texture de notre cheveu. Mais ce que je remarque en ce moment, qui est devenu un vrai phénomène aussi, c'est de se décaper le cheveu. La femme africaine avec sa texture brune au niveau 1 dans la colorimétrie peut devenir blonde en décapant le cheveu de 3 tons pour arriver à 10. Donc cette technique-là détruit complètement le cheveu. Le défrisage le détruisait, tout le monde le savait. Mais maintenant, consciemment, on laisse le cheveu naturel et on le décape. C'est le sujet que moi je vois souvent dans les salons de coiffure. Aujourd'hui, le défrisage, c'est vrai qu'il détruit les cheveux, il dénature la texture du cheveu, il le rend peureux, il le rend plus sec, il le rend plus cassant, il déséquilibre le pH du cuir chevelu, il entraîne des problèmes de pellicule, d'irritation et tout ce qu'on connaît, même les brûlures de la peau. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que toutes ces femmes ont compris que le défrisage avait cet effet, ont envie de revenir aux cheveux naturels, mais n'arrivent pas parce qu'elles n'arrivent pas à se coiffer. Parce
et justement,
que cette texture de cheveux, l'Africaine ne la maîtrise pas.
Chimène Sosa, comment est-ce qu'on fait du coup pour se soigner dans un premier temps? Quand on a constaté tous ces dégâts et qu'on se dit « bon, maintenant, je veux du cheveu naturel », c'est quoi la première étape? Qu'est-ce que vous pouvez recommander, par exemple, comme produit, comme soin?
Bon, aujourd'hui, il faut aller sur les produits émollients. C'est-à-dire que tous les produits émollients arrive à améliorer cette texture qu'on veut assouplir. Le premier soin, généralement, les gens se jettent généralement sur les huiles en ce moment. Les tutos sur Internet montrent des quantités de produits pour soigner ce cheveu. Les bains d'huile qu'on dit, normalement, assèchent le cheveu. Quand vous prenez un cheveu, vous rajoutez de l'huile. L'effet que vous recherchez, vous ne l'avez pas, le cheveu est toujours aussi sec parce que le cheveu ne souffre pas.
Aujourd'hui, il faut commencer par utiliser le produit basique qu'on a, c'est le beurre de karité, c'est l'huile de ricin, c'est l'huile de coco, c'est des émollients qui ramollissent ce cheveu. Dans un milieu humide, il faut juste avoir un cheveu. Il faut les mouiller parce que le cheveu crépus se soigne dans l'humidité. Contrairement à ce que tout le monde pense, les gens sèchent le cheveu ou bien les prennent directement, ils mettent du beurre de karité. Le cheveu a besoin de s'émulsionner dans un milieu qui l'ouvre. En fait, il s'ouvre. Donc, une fois qu'on arrive à l'ouvrir, les soins arrivent à mieux le pénétrer. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir soigner ce cheveu, il faut d'abord le connaître. Et le connaître, c'est d'avoir tout le temps un esprit qui se soigne dans les milieux humides. Le cheveu crépus se soigne quand il est mouillé.
Donc le beurre de karité, meilleur ami du cheveu afro pour commencer en tout cas à avoir un cheveu naturel qui respire et qui vit correctement. Merci beaucoup Chimène Sosa d'avoir été en direct avec nous de Cotonou au Bénin. Vous êtes toujours la directrice du centre de beauté Lorénor. Et merci à vous Marie-Jeanne Serbin-Thomas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice du magazine Brune. On vous en recommande d'ailleurs la lecture. Et pour nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission sur RFI, c'est Solange Knowles, Don't Touch My Hair. You know this hair is my shit, all the right, I gave it time. But this hair is mine. You know this hair is my shit, all the right, I gave it time. But this hair is mine. De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Brault, Delphine de Dianous et Robin Dubrac d'avoir préparé et réalisé cette émission. Demain, mercredi, vous retrouverez Chantal Leroux dans 7 milliards pour parler du Liban et des familles qui y vivent alors que le pays s'enfonce dans la crise. Elle attend d'ores et déjà vos témoignages sur le WhatsApp de l'émission, le 33 7 64 45 51 41. Pour retrouver cette émission et toutes les précédentes en podcast, ça se passe sur RFI.fr ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Laissez-nous vos petits messages également sur nos réseaux sociaux, on vous lira avec plaisir. À demain, mercredi, même heure, sur RFI.
7 milliards de voisins, c'est fini. Tout à l'heure.